Africa.
Bonjour à toutes et à tous, Ramadan Karim, pour tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Bienvenue le Maroc, bienvenue l'Afrique, en dépit de quelques difficultés de liaison, puisque une partie de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale a été coupée sur le plan du câble télé. Il y a un petit câble téléphonique qui a été coupé au niveau de l'océan. Donc on essaiera quand même de faire bonne figure, de joindre l'utile à l'agréable et de lutter contre ces cas de force majeure pour pouvoir vous transmettre le meilleur de l'actualité sportive. En ce cinquième jour du mois de Ramadan, nous serons bien évidemment liés à l'actualité et l'actualité prime avec les dates FIFA, les listes des différentes sélections nationales, les tirages au sort des compétitions continentales. Voilà les deux principaux sujets. Puis il y aura des divers bien évidemment avec le gros scandale de trafic d'âge dans le football camerounais. Nous serons bien évidemment présents un peu partout sur le continent pour pouvoir vous donner le maximum de l'information. Alors, nous serons bien évidemment du côté du Bénin avec Élisée Onkpatine, avec Elisabeth Goli, avec notre ami égyptien Mohamed Saïd, avec Michel Tobo, avec bien d'autres qui seront parmi nous pour bien évidemment nous éclairer notre lanterne concernant l'actualité sportive, l'actualité footballistique en particulier. Donc, on va commencer. Est-ce que les premières liaisons sont effectuées? Est-ce que nous pouvons être en direct avec un de nos correspondants? Élisée Onkpatine, bonjour.
Oui, bonjour Amine Birouk et bienvenue au Bénin.
Alors, on va faire un petit round-up de l'actualité. On commence par ce qui se passe au Maroc. Je pense que tous les regards étaient focalisés sur la liste de Walid Regragui et sur ce qu'on a considéré en Espagne comme une affaire d'État, l'affaire Brahim Diaz. Il y a eu la sortie médiatique du joueur, il y a eu la réponse du sélectionneur espagnol. Comment on regarde cette affaire du côté de l'Afrique de l'Ouest?
Bon, du côté de l'Afrique de l'Ouest, il faut le dire, hein, c'est simple. Cette affaire de Brahim Diaz montre combien de fois vous pouvez être dans un grand club et opter pour votre pays d'origine. Puisque quand on voit Brahim Diaz aujourd'hui, qui évolue du côté du Real de Madrid, il est très proche de la Roja. Et que, bon, on n'a pas besoin même de le séduire avant qu'il ne joue du côté de l'Espagne. Mais aujourd'hui, il a aimé le projet, puisque là, il s'agit d'un projet. Et quand vous prenez le projet marocain, c'est un projet... Excusez-moi, c'est un projet qui séduit. Aujourd'hui, l'organisation qu'il y a autour du football marocain, ça séduit. Tout ce qui a été construit, les infrastructures. Même quand vous allez du côté du siège de la Fédération marocaine de football, vous allez comprendre que les moyens ont été déployés pour faire de ce football-là, d'un football d'un niveau très élevé. Aujourd'hui, Brahim Diaz a fait un bon choix. Et ça inspire déjà, puisque à Cotonou, on parle déjà de quelques binationaux qui peuvent aujourd'hui venir défendre les couleurs du Bénin, notamment Colin Dagba, l'ancien défenseur latéral droit du Paris Saint-Germain, qui aujourd'hui tarde à donner quand même son avis et qui hésite encore à choisir le Bénin. Vous imaginez donc, aujourd'hui, c'est le projet et le sérieux qu'il y a autour de ce projet. Et le Maroc, aujourd'hui, a mis quand même du sérieux dans ce qu'il peut avoir dans ce football-là. Et là, ça séduit bien évidemment Brahim Diaz, qui aujourd'hui fait la fierté de ce football marocain et déjà pour la prochaine date FIFA sera du côté et sera dans la tanière afin de défendre variablement ce maillot-là. Donc c'est quand même l'exemple qu'il faut suivre aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, ça séduit beaucoup bon nombre de personnes ici qui pensent déjà à quelques binationaux béninois qui sont proches de porter le maillot français. C'est vrai que Jules Kouné, qui évolue du côté du FC Barcelone, ne peut plus aujourd'hui jouer pour le Bénin. Mais quand même, on a encore espoir d'avoir un certain Colin Dagba qui pourra bien sûr venir défendre les couleurs du Bénin. Donc, c'est un très bon choix que Brahim Diaz vient de faire.
Et en attendant de connaître la décision de Colin Dagba, Gano 3 a dévoilé hier la liste des joueurs retenus pour affronter la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Amiens, en France, deux bons tests amicaux pour la sélection béninoise.
Deux bons tests, et laissez-moi vous dire que c'est deux grands tests, deux champions qui se sont succédés l'ancien, le Sénégal, et bien sûr le nouveau champion, la Côte d'Ivoire. Et il a déjà des blessés, notamment le Roc, le défenseur central, qui vient de se blesser du côté de la Bulgarie. Je vais bien nommer Olivier Verdon, qui s'est blessé avec son proche Ludogorets. Et là, il sera absent, remplacé par Doremus, qui évolue dans le championnat français de 4e division. C'est vrai que, bon, et quand on va prendre le niveau du ce championnat, on dira que bon, c'est un joueur de niveau très bas. En tout cas, ce qu'il faut retenir simplement, Guénot Rohr a sélectionné des joueurs et ça fait tellement polémique au pays, puisque Amine Birouk, un sélectionneur qui dit qu'il ne va pas donner du temps à des joueurs, qui ne va pas simplement sélectionner des joueurs qui n'ont pas du temps de jeu dans leur club. Et vous imaginez, il sélectionne Jodel Dossou, qui évolue du côté de Sochaux et qui n'a presque pas joué cette saison, notamment aussi le gardien de but Satuné Alagbe, qui n'a pas encore joué cette saison. Donc aujourd'hui, ça fait tellement débat où ça tire dans tous les sens au niveau de la presse béninoise, puisque quand on écoute un peu et Guénot Rohr qui parle des joueurs qui sont titulaires dans leur club, et que quand on voit un peu cette liste, il y a tellement de joueurs qui ne sont pas titulaires dans leur club. Mmh. Il y a tellement de déceptions ici à Cotonou. C'est vrai que c'est des matchs test où il fallait appeler certains joueurs qui, on aura la chance de les voir s'illustrer. Parce que quand on parle de matchs test, c'est pas forcément le résultat qui compte. Il faudra donner la chance à certains qui peuvent être titulaires demain, mais Guénot Rohr n'a pas voulu quand même appeler certains joueurs, ni au niveau international, même aussi au niveau du championnat national, où le gouvernement met tellement de moyens pour révéler ce championnat. Vous êtes sans savoir que ce championnat est désormais suivi sur le bouquet Canal Plus international. Donc, le gouvernement met tellement de moyens pour que ce championnat puisse révéler tellement de joueurs. Mais aujourd'hui, Guénot Rohr n'a pas pu sélectionner le moindre joueur issu de ce championnat. La presse béninoise est tellement déçue de par le comportement de Guénot Rohr, qui est venu au Bénin et que depuis près de 2 ans n'a pas obtenu une seule victoire. La seule victoire, c'est sur tapis vert contre le Rwanda. Vous imaginez, le bilan est négatif. Donc, tous les choix de Guénot Rohr sont critiqués. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, aujourd'hui, on attend cette double confrontation, ces deux affiches, j'allais dire, contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, deux champions qui se sont succédés. On espère qu'il n'y aura pas de débat et que les joueurs sélectionnés pourront bien viablement défendre les couleurs du Bénin et vont se comporter comme des guépards.
On rappellera les premières pour Mariano Aungbo et Lenny Pringel, le retour de Saturnin Lagbé, Joe Del Dossou et Charbel Gomez, et également de Youssouf Assogba. En tout cas, merci, bonne chance à l'équipe du Bénin pour ces deux rencontres amicales, et on espère bien évidemment qu'il y aura un meilleur comportement, que ça permettra peut-être de relancer cette sélection en prévision des prochaines dates éliminatoires de la Coupe du Monde prévues au mois de juin prochain. Merci beaucoup, Élisée Ongpatine. On va partir dans quelques instants dans une autre direction, dans un autre pays, pour en savoir un peu plus sur l'actualité justement de la Tunisie, peut-être, avec Ahmed Adela. Bonjour Ahmed Adela.
Bonjour Amin, bonjour à tous les chers auditeurs et auditrices de Radio Mars, et Ramadan Moubarak.
Ramadan Moubarak Saïd, à tous nos amis frères tunisiens. On va commencer par la sélection tunisienne qui va disputer un tournoi international aux Émirats. À nouveau, deux absents de taille. Quelles sont les grandes lignes de la sélection tunisienne qui va vivre une période de transition en attendant de désigner un sélectionneur fixe?
En fait, il y a de nouveautés. Il y a la convocation du portier, du gardien de but de l'Espérance sportive de Tunis, le jeune Amanallah Mimich, et le retour de quelques noms à l'instar de Dylan Brown, ou encore Reyce Zalouni de sa deuxième convocation à l'arrière droit du club africain. Il y a trois joueurs de l'Espérance et trois joueurs de club africain. L'Espérance qui s'apprête à disputer la Ligue des Champions, ça va peut-être impacter les préparatifs du club, tout en sachant que les trois joueurs tunisiens qui ont été convoqués, ils sont titulaires indiscutables, tout comme Roger Aoulou, l'international togolais qui a été convoqué avec sa sélection ou encore Mohamed Amine Tougay qui a été convoqué avec l'Algérie. On revient à la sélection tunisienne, deux absences de taille, Ali Mahloul et Youssef Msekni, qui ont demandé gentiment au staff de ne pas les convoquer. Ali, c'est peut-être, Mahloul, c'est peut-être compréhensible compte tenu du rythme de match qu'il est en train de jouer, disputer le nombre, très grand nombre de matchs avec son club Al Ahly, et Youssef qui a demandé de le laisser au repos peut-être vis-à-vis de la situation de son club qatari au championnat, mais ça reste toujours des choix incompréhensibles pour les supporters et les fans de la sélection tunisienne.
Alors, il y a également les absences de Anis Mslimane, Naïm Sliti, Yann Valéry. Il y a tout de même un peu de chambardement dans cette équipe de Tunisie. Et puis, il y a encore le gros point d'interrogation sur Hannibal Mejbri qui n'a toujours pas pris ses galons de titulaire à Séville.
Je commence par le premier nom que vous avez cité, c'était
Anis Mslimane, Anis Mslimane,
Naïm
Sliti.
Anis, il est blessé. Ça fait un mois pratiquement, dès qu'il est revenu de la CAN, il s'est blessé avec son club en Angleterre, du Sheffield United. Naïm Sliti, il a été interrogé par la chaîne Al-Kes au Qatar s'il va prendre sa retraite. Il a répondu que je vais voir qu'est-ce que ça va se passer au niveau de la sélection, après je vais prendre ma décision. Alors que on lui a posé la question lors de la CAN, il a dit que moi, je reste à la disposition de la sélection. Après, peut-être que le chambardement qui a eu lieu aux élections, ça va peut-être impacter le choix de certains joueurs. Et les troisièmes joueurs dont vous avez parlé, Amine, c'était qui après Naïm Sliti?
Yann Valéry.
Ah, Yann Valéry, oui, il est en train de faire de très bonnes prestations, de donner de très bonnes performances avec son club de SCO d'Angers. Il est titulaire indiscutable, il a disputé la totalité de rencontres, il a même offert des assists. Je pense que Yann Valéry, la sélection, ça marche pas, ça colle pas. D'ailleurs, il était l'un des rares joueurs qui n'ont pas disputé la moindre minute lors de la CAN. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe avec Yann Valéry, peut-être un problème d'adaptation, peut-être qu'il n'était pas convaincant dans les entraînements, je ne sais pas, mais il faut aussi souligner, on avait oublié la convocation de Mohamed Amine Cherny, le latéral de Stade Lavallois, qui fait une excellente saison avec son club en Ligue 2 en France. Il va peut-être être le prochain remplaçant de Ali Mahloul, même si Ali Mahloul reste toujours quelqu'un qu'on ne pourrait jamais remplacer.
En tout cas, c'est des oppositions de taille que va voir la Tunisie avec la Croatie dès vendredi prochain. Puis le vainqueur ou le perdant de l'autre confrontation qui aura lieu aux Émirats Arabes Unis entre l'Égypte et la Nouvelle-Zélande.
C'est juste une petite remarque. La compétition a été délocalisée, elle ne jouera pas aux Emirates, elle va être disputée en Égypte, vu les quelques soucis et problèmes qu'a eu l'organisateur du tournoi en Égypte aux Emirates, parce qu'apparemment il y a eu un problème avec les sponsors. Donc,
ce sera en Égypte. Il n'y a pas de problème. Voilà. On va parler de la qualité des adversaires. Ça va commencer par la Croatie. Qui prépare l'Euro, et puis il y aura le vainqueur ou le perdant d'Égypte-Nouvelle-Zélande. Ce sont de belles rencontres pour pouvoir se relancer et effacer les blessures de la CAN en Côte d'Ivoire.
Exactement, tout en sachant que la Croatie, on les a battus avec toutes leurs stars, à la star de Modric à l'époque, avec Alain Giresse avant la CAN 2019, si je ne me trompe pas. Ça serait une très bonne occasion pour ces joueurs de jouer pour le maillot, pour expliquer aux gens que voilà, on est là, ça a été une chute ou peut-être douche froide lors de la CAN, mais on va se rattraper, on est prêt, tout en sachant qu'au mois de juin, on aura les journées FIFA pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Comme tu l'as dit, c'est une période transitoire. On va attendre ce qui va se passer par rapport à la nomination du sélectionneur. Personnellement, c'est pas la Croatie qui m'intéresse. Honnêtement, j'aurais aimé affronter l'Égypte, un adversaire de taille, oui, comme la Croatie, mais c'est un adversaire qui nous a face à qui on a toujours fait des très bonnes performances et des très bons résultats. Ça aurait pu être très bon pour le moral. On va attendre.
Et on va aussi patienter parce que quelques semaines plus tard, il y aura les quarts de finale de la Champions League. Le tirage au sort a été effectué mardi dernier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que du côté de l'espérance, on peut pousser un ouf de soulagement. Tomber contre la SEC d'Abidjan, c'est beaucoup mieux que tomber contre LLI ou Mamelodi Sundowns.
Exactement. Même si la SEC, c'est pas rien. Hein. La SEC qui avait battu l'USMO il y a un an en Coupe de la CAF, 2-0. Donc, la SEC, c'est une équipe qui revient de loin. Même s'ils ont perdu leur attaquant, ils l'ont vendu à un club en Europe. Mais l'espérance avec Cardozo, elle est sur une phase, sur une courbe ascendante, c'est une très bonne phase. Ils ont battu l'étoile du Sahel la semaine passée, on en a parlé. Aujourd'hui, il y aura le derby de la capitale, l'Espérance contre le club africain. On va voir le vrai visage de l'Espérance avant d'affronter ASEC. Après, si l'Espérance se qualifie, elle va certainement bien tomber sur Mamelodi, soit Young Africans, mais ça sera peut-être Mamelodi qui aura beaucoup plus de chance. De l'autre côté, il ne faut pas oublier que l'Ahli semble être peut-être dans un chemin ouvert vers la finale, mais pour l'Espérance, c'est un très bon tirage.
On en parlera dans quelques minutes avec notre ami Mohamed Saïd. En tout cas, merci pour notre ami Ahmed Adala. Bonne journée. Taqabbalallah siyam. Il est 10h18, direction Abidjan avec Elisabeth Goli. Bonjour Elisabeth. On va commencer par parler des éléphants de Côte d'Ivoire avec une liste. La première, donnée par Emers Faye après ce grand triomphe en Coupe d'Afrique des Nations. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on fait confiance aux récents champions d'Afrique. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Amine, bonjour chers auditeurs de la Radio Mass. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce samedi pour parler du sport et notamment de l'actualité sportive, l'actualité footballistique en Côte d'Ivoire. En effet, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Emers Faye, a animé une conférence de presse le lundi 11 mars 2024 au siège de la Fédération ivoirienne de football à Abidjan. Et au cours de cette conférence, il a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux contre le Bénin et l'Uruguay. Donc pour ces deux matchs comptant pour les fenêtres FIFA, les Ivoiriens affronteront successivement l'équipe du Bénin le 23 mars au stade de la Licorne à Amiens et l'Uruguay au stade Bollard de Lille, à Lens le 26 mars 2024, toujours en France. Donc pour cette campagne, c'est vrai qu'on dit qu'on ne change pas, l'adage dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et effectivement, Faye et Metz adhèrent dans ce sens. Il n'a pas changé son effectif. Hélas, il a été contraint de ne pas sélectionner trois joueurs, notamment Sébastien Allaire et Serge Aurier, qui sont blessés, ainsi que Christian Kwame, qui revient d'un palu. Donc ce sont ces trois joueurs qui manquent dans l'effectif de Faye et Mers. Par contre, il y a un nouvel entrant qui va occuper le poste de Serge Aurier. Il s'agit de Doué Guéla, ce joueur de Rennes qui fait vraiment les beaux jours de son équipe, qui vraiment c'est une pépite du football ivoirien et donc il sera à sa première sélection avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment ce qu'on peut dire comme nouveauté au sein de la sélection ivoirienne qui va affronter le Bénin et l'Uruguay. Et bien sûr, l'arrivée pour la première fois de Guéla. Et aussi, on peut dire que Faye est vraiment prêt. Il est attendu. L'équipe de Côte d'Ivoire, la sélection de Côte d'Ivoire, les éléphants champions d'Afrique sont vraiment attendus pour ces deux rencontres parce qu'il va leur falloir prouver qu'ils ont mérité le titre acquis récemment à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 11 février 2024. Donc, les champions d'Afrique, à l'image de tout champion de compétition, on est toujours attendus et les éléphants sont très attendus. Et je sais que ce ne sont pas les Uruguayens ou les Béninois, les guépards du Bénin, qui se laisseront faire lors de ces rencontres.
Et on rappellera que c'est avec la sensation Mohamed Bamba que l'équipe de Côte d'Ivoire va repartir vers d'autres objectifs. Objectif également pour la SEC d'Abidjan, puisque la SEC, Elisabeth, a tiré un lot assez accessible, à savoir l'Espérance de Tunis lors du tirage au sort des quarts de finale de la Champions League. De quoi donner des ambitions peut-être à la SEC, n'est-ce pas, Elisabeth ?
ASEC Mimosa, Espérance sportive de Tunis. Ce n'est pas... c'est une rencontre de retrouvailles, si on peut s'exprimer ainsi, entre ces deux formations qui se connaissent. En effet, pour les quarts de finale de la Ligue des champions de football, le représentant ivoirien, l'ASEC Mimosa, va croiser le fer avec l'Espérance sportive de Tunis en quart de finale de cette prestigieuse compétition africaine. Oui, la Ligue des champions est la plus prestigieuse des compétitions au niveau des clubs. Et cette opposition entre l'ASEC Mimosa et l'Espérance sportive de Tunis intervient 17 ans après le dernier duel qui a opposé les deux formations. Et la dernière opposition, si on peut le rappeler, entre jaune et noir et sang et or, date de 2007. Et au cours de cette rencontre, les Ivoiriens avaient pris le meilleur sur leur adversaire du jour, 2-0 au match retour. Et à l'aller, les deux formations avaient réalisé un score nul de 0-0 en match de poule. Donc, il faut dire que c'est un match qui promet, une rencontre qui promet pour les deux, parce que chacune d'elles voudra vraiment franchir le cap de ces quarts de finale. Et aussi, il faut dire que, comme je fais le rappel, ce n'est pas non plus l'unique opposition qui a marqué les esprits entre ces deux formations. On rappelle qu'en février 1999, lors de la Super Coupe de la CAF, les Mimos, qui étaient constitués vraiment de la belle génération du football ivoirien, de la belle génération des joueurs du football ivoirien, dont Yaya Touré, son frère Kolo Touré et autres, Romaric Ndri et autres, avaient rencontré l'Espérance sportive de Tunis au stade Félix Houphouët-Boigny et ils avaient surpris vraiment cette formation tunisienne sur le score de 3-1. Donc, et c'est vraiment une défaite qui est restée dans les mémoires, dans les archives du football africain. Et 25 ans après, les deux formations vont se rencontrer pour un autre challenge. Et vraiment, ce sera un beau match que les deux formations vont se livrer, une belle rencontre que les deux formations vont se livrer pour vraiment relever les défis. C'est vrai qu'on ne parlera pas de revanche, mais il faut dire que ce sont deux formations qui se connaissent et chacune voudra vraiment se faire plaisir. Et c'est vrai que ce ne sont pas non plus les mêmes acteurs. Les acteurs ont changé au niveau de l'ASEC Mimosa parce que en 2007, face à l'Espérance de Tunis, c'était l'époque de Mohamed Kabore, le gardien de but, de Khaled Adenon, Ali Diarra, Désiré Kouamé, Emmanuel Koné, comme milieu de terrain, et on avait à cette époque aussi comme attaquant Serge Kouakou, Abdoul Nafiou Idrissou et autres, supervisés bien sûr par Patrick Lévis. Et donc c'est vraiment une nouvelle génération qui arrive, mais elle garde toujours le même esprit, l'esprit de conquérant, et surtout que cette année la SEC Mimosa a décidé vraiment de monter sur la première marche du podium pour redorer son blason au niveau continental. Donc la SEC est vraiment décidée, les joueurs, les protégeurs de Maître Roger Wognin en veulent terriblement pour vraiment consolider leur position de champion de Côte d'Ivoire, leur position de meilleure équipe de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, ils se donnent tous les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif.
Merci Elisabeth. Rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à parler d'actualité ivoirienne. Il sera question des éléphants de Côte d'Ivoire qui remettront leur titre en jeu, mais leur prestige en jeu. Après la page de pub, nous irons au Caire avec notre ami Mohamed Saïd et on parlera de deux sujets importants. Le tirage au sort de la Champions League avec El Ahly qui a été favorisé et puis la sélection égyptienne sans Mohamed Salah. Vous êtes toujours sur Mars Africa, vous êtes toujours sur Mars Attack, sur Radio Mars bien sûr, et nous allons bien évidemment partir au Caire et à l'attaque avec notre ami Mohamed Saïd qui va nous parler de l'actualité du football égyptien. Sabah al-khair, Oustad Mohamed, Ramadan Mubarak Saïd, et je pense que le premier sujet que nous allons parler est la Coupe de CAS Africa, la Champions League Africa, qui est très bien pour l'Ahly qui va se faire dans le rôle فريق سيمبا من تنزانيا والاحتمالات كلها واردة وكل يصب لمصلحة الأهلي لأنه مباراة العودة في القاهرة وفي حالة تأهل الأهلي فهناك احتمال تواجد الأهلي في نصف النهائي والنهائي مع إمكانية لعب مباراة العودة أو الإياب دائما في ملعب الأهلي، بمعنى كل الأشياء تصب نحو تتويج جديد أو تتويج ممكن للأهلي.
طبعا قرعة دوري أبطال إفريقيا أسفرت عن مواجهات يعني تكررت في الفترات الأخيرة للأهلي كثيرا في دوري أبطال إفريقيا. الشيء الإيجابي في القرعة إن المباريات التي سيلعب فيها الأهلي سواء في دور ربع النهائي أو في حالة تأهل إلى نصف النهائي أو بإذن الله في حالة تأهل للمباراة النهائية، ستكون كل مباريات الإياب ولقاءات العودة على استاد القاهرة الدولي. أعتقد هي تعطي للنادي الأهلي أفضلية وتمنح الأهلي أفضلية تتخطى 60-70%، ولكن المشوار يعتبر مشوار صعب جدا. سيمبا التنزاني من الفرق القوية في الفترات الأخيرة، الأهلي يعاني في كل مبارياته التي تقام في تنزانيا، لا ينجح في العودة بأي مكسب أو فوز، وبالتالي من هنا تأتي صعوبة هذه المواجهة وهذا اللقاء، خاصة أن سيمبا التنزاني يقود حاليا فنيا المدير الفني الجزائري عبد الحق بن شيخة، وهذا المدرب هو من فاز على الأهلي في كأس السوبر الإفريقي عندما كان يتولى تدريب اتحاد العاصمة. مشوار الأهلي ليس مفروشا بالورود، الطريق واللقاءات الإياب في القاهرة قد تعطي الأهلي أفضلية زي ما قلت، ولكن أيضا الطريق صعب، يعني بعد الفوز على سيمبا بإذن الله المواجهة المرتقبة إما مع الفائز ما بين مازيمبي الكونغولي أو بيترو أتلتيكو الأنغولي، وأعتقد مواجهة صعبة جدا خاصة إذا تأهل مازيمبي الكونغولي، لأن مازيمبي الكونغولي لم ينجح أي فريق مصري في إحراز أي مكسب عليه في ملعبه في معقله في لومبنباتشي. ثم اللقاء النهائي، يعني ننتظر في النهاية هل ممكن الترجي أو سان داونز في حال إذا تأهل إلى مرحلة نصف النهائي. القرعة نقدر نقول قرعة متوازنة فيها إيجابيات، ولكن البطل الذي يسعى للفوز باللقب يلعب تحت أي ظرف وفي أي مكان. نتمنى التوفيق يا رب إن شاء الله للنادي الأهلي.
هناك كذلك لائحة التي أعطاها الناخب الوطني المصري الجديد حسام حسن، لائحة تتضمن أسماء عديدة، ولكن في غياب محمد صلاح، ما هو سبب إبعاد محمد صلاح؟ هل هو لإراحته مع فريق ليفربول والاعتماد عليه في المباريات التي هي أهم؟ ما هي أهم معالم اللائحة الأولى تحت قيادة حسام حسن؟
انطلاقة حسام حسن المدير الفني المصري للمنتخب الوطني نقدر نقول انطلاقة فيها يعني مثال متكرر لنفس تجارب سابقة لمحمود الجوهري رحمة الله عليه أو حسن شحاتة آخر مدرب وطني حقق نجاحات مع منتخب مصر. حسام حسن بيسعى لكتابة تاريخ جديد وكتابة انتصارات جديدة، لأنه تولى تدريب المنتخب لأول مرة في تاريخه منذ أن تم اعتزاله في نهاية 2007، وبالتالي حسام حسن يعني يدخل هذه التجربة باستراتيجية جديدة. هو يسعى إلى تواجد أكبر عدد من لاعبي النادي الأهلي في المنتخب، ضم في هذا المعسكر حوالي 10 لاعبين من النادي الأهلي، وهي نقطة لا تكرر في منتخبنا الوطني إلا عندما يتولى تدريب المنتخب مدرب وطني. في كل الأحيان عندما يتولى تدريب منتخب مصر مدرب أجنبي لا يضم من الأهلي سوى أكثر من 5 إلى 6 إلى 7 لاعبين، وبالمقارنة يكون هناك يعني تساوي مع الأندية الأخرى 5-6 لاعبين من الزمالك أو من بيراميدز أو، ولكن مع المدرب الوطني الأهلي هو السمة الأفضل والأقرب للتواجد بنسبة كبيرة جدا في أي معسكر لمنتخب مصر، وهذا ظهر بشكل واضح في أول معسكر بتواجد 10 لاعبين. استغل الدورة الودية مواجهة نيوزيلندا ثم مواجهة الفائز ما بين كرواتيا أو تونس. صلاح نجم ليفربول المنتخب لم يستبعده وحسام حسن لم يستبعده. الحقيقة الغائبة عن الجميع أن محمد صلاح هو من اعتذر عن التواجد في أول معسكر لمنتخب مصر، ونعلم أن هناك في الأمور أمور بشأن العلاقة التي تجمع صلاح مع الجهاز الفني بقيادة حسام وإبراهيم حسن، ولكن البداية لم تكن مبشرة. صلاح جاهز، صلاح بيلعب في مع ليفربول في دوري الأبطال وفي الدوري الإنجليزي، ولكن يبدو أن صلاح ليس لديه رغبة في التواجد مع المنتخب في الفترة الحالية، واعتذر عن التواجد في أول معسكر، وأعتقد أن هناك تفاصيل أكثر ستظهر في الفترة القادمة، سوف يكون هناك أزمة ستظهر بشكل واضح في الفترات القادمة.
وفي انتظار ذلك الجماهير الأفريقية العربية ستتمتع بمحمد صلاح في مباراة إفي كاب يوم غد إن شاء الله بين ليفربول ومانشستر يونايتد، وانطلاقتها الساعة 3:30 بالتوقيت المغربي. ميرسي à notre ami محمد سعيد depuis le Caire direction Bamako avec Drissa Nyono. Bonjour Drissa.
Bonjour Amina, bonjour à toutes et à tous.
Et on va commencer par la liste des aigles du Mali qui affrontent les Super Eagles du Nigeria. 112 joueurs qui ont disputé la CAN. Quelles sont les grandes lignes, les grandes tendances de cette première liste post-CAN d'Eric Schell?
Alors, la première à souligner, c'est l'absence quand même d'Ibissouma, qui est l'un des cadres de la sélection et qui était présent depuis 2017. Donc, le joueur de Tottenham a raté sa CAN et n'a pas brillé lors de la dernière compétition. Et son utilisation, malgré qu'il est performant en club, pose problème au sein de la sélection. C'est qu'à Tottenham, il évolue comme un relayeur alors que le coach Eric Sekouchet le fait évoluer comme meneur de jeu. Donc, on a tendance à voir un autre Ibissouma sur le terrain du côté du Mali, alors que quand il retourne du côté de Tottenham, on le voit un peu plus libéré, souriant, alors que son visage, il est serré au sein des aigles du Mali. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème au sein de cette formation? En tout cas, cet après-midi, c'est l'une des questions qui sera également posée sur le sélectionneur national Eric Sekouchet concernant Ibissouma. Alors, au-delà de ça, vous l'avez souligné, sur les 27 joueurs, 15 seulement sont restés et les 12 autres sont sortis, parmi lesquels on a également Nos Traoré, et qui perd également son quart de finale raté face à la Côte d'Ivoire. Il y a Boubacar Traoré, mais Boubacar, plutôt, il va être sélectionné pour participer au match amical avec les U23. Vous avez Sekou Keïta qui est passé également à côté de sa CAN, Serine Doucouré qui n'a pas joué une seule minute. Donc, Eric Sekouchet a remplacé les joueurs moins performants lors de la dernière CAN par des jeunes d'avenir. Il s'agit notamment de 3 jeunes joueurs des Aigles cadets qui ont fait une bonne performance du côté de l'Indonésie. Leur capitaine Ibrahima Diarra, l'attaquant Mamadou Doumbia et le gardien Bourama Koné, qui vont connaître également, pour le petit Ibrahima Diarra, ce sera sa deuxième fois qu'il sera convoqué. Par ailleurs, pour Mamadou Doumbia et Bourama Koné, ils avaient été présélectionnés pour la CAN, mais cette fois-ci, ils ont été sélectionnés pour effectuer ces 2 matchs amicaux face à la Mauritanie et au Nigeria. Au-delà de ça également, il faut souligner l'arrivée des nouveaux joueurs. Ils sont au nombre de 9, j'ai cité 3, parmi lesquels il y a également Mourgo Sana au niveau de la défense centrale, Ablaye Diaby qui avait été champion d'Afrique avec les U20 et qui évoluait du côté de Saint-Gallen, du côté de la Suisse. Vous avez du côté de Pau, Moussa Asila, qui va également être sélectionné et pour la première fois avec les Aigles. Donc, on a 4 revenants. Il s'agit notamment du gardien Mamadou Samassa et ensuite El Bilal Touré qui va signer son comeback. Par ailleurs, les autres, quand même, il n'y en a pas beaucoup à discuter. L'Ossature est présent, avec Djigui Diarra dans le but et à la défense Sikou Niakate, Kiki Kouyaté, et au milieu de terrain Amadou Aïdara, Djadji Sama, Sikou Lassana Koulibaly et en attaque Lassine Sinaïmo, qui a été la révélation côté malien du côté de la CAN. Donc, Eric Sekouchet a fait du 109 avec des jeunes, surtout et en punissant, entre guillemets, certains de ces cadres.
Qui ont été décevants lors de la CAN. On bifurque vers un autre sujet, il concerne le stade malien, seul représentant du football malien dans les compétitions des clubs. Il est engagé en quart de finale de la Coupe de la CAF et il a décroché peut-être le morceau le plus accessible, en tout cas, parmi les leaders de groupe, c'était l'adversaire le plus à la portée. Il s'agit des gagnants de Dreams FC.
Exactement. C'était également les prières, surtout, on va dire, les prières des Blancs ont été exaucées parce que c'était l'adversaire également qui le cherchait sur le cadre, parce que le stade, il faut le reconnaître, a
connu normalement a connu des difficultés hein, lors de ses déplacements, surtout du côté de l'Afrique du Sud. Quand je dis des difficultés, ça dit des difficultés financières surtout. Et pour les Blancs, il fallait prier à avoir un adversaire qui pourrait être le moins comment dire, dépensier pour les Blancs pour aller chercher un résultat. En tout cas, c'était également l'adversaire le plus, entre guillemets, le plus fort parce que Dream FC est un club formé en 2009. 2009, l'année à laquelle le Stade Malien a également remporté son premier titre et c'est également continental. C'était également cette Coupe de la Confédération remportée avec Djibril Drami. Alors, Dream FC, un club ghanéen qui occupe la 11e place du championnat ghanéen, qui a marqué 18 buts, encaissé 18 buts, alors que le Stade, c'est vrai, est en 3e position du côté du championnat malien ici. Et ils ont connu des semaines, en tout cas, moins réussies pour eux. Donc, il y a ce derby qu'ils doivent également jouer ce dimanche face à l'ennemi, le Djoliba Athletic Club. Ce sera l'occasion de la 19e journée. En tout cas, entre-temps, l'adversaire, quand même, sur le papier, le moins difficile a été tiré. Et pour les Blancs, l'objectif, c'est de franchir cette étape de quart de finale et aller chercher ce ticket pour la qualification pour la demi-finale de la Coupe de la Confédération et continuer à rêver, en tout cas, pour aller chercher ce second titre, entre guillemets.
Merci beaucoup Drissa Diouno et continue à faire rêver les supporters maliens. Il est 10h39, on se donne rendez-vous samedi prochain. Il y aura deux sujets hein, concernant Drissa. Il y a le tirage au sort des JO qui aura lieu en milieu de semaine. Et il y a la sortie internationale des Aigles du Mali. Direction le Congo démocratique avec notre ami Michel Tobol. La RDC ne s'est pas posée de questions, on ne disputera pas de rencontres amicales. Donc nous nous focaliserons essentiellement sur le tirage au sort de la Champions League africaine. Bonjour Michel. Il y a eu un tirage a priori à la portée du TP Mazembe puisqu'il affrontera Petro Atlético. C'est du 50-50 entre deux adversaires redoutables en Champions League.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Merci encore de me donner ce petit moment justement pour intervenir par rapport à l'actualité sportive ici en pays démocratique du Congo. Hein. Donc, en ce qui concerne les Léopards des pays démocratiques du Congo, nous n'aurons pas de stage ce mois de mars, ce qui est vraiment, vraiment désolant. On aurait bien voulu, Sébastien Desabre, bien sûr, aurait bien voulu avoir ce stage qui aurait permis justement de continuer avec la dynamique imprimée lors de la dernière Coupe d'Afrique de Nations, mais des soucis financiers, voilà, c'est ça la raison. Voilà, on a privilégié les athlètes qui sont allés, qui sont en ce moment même du côté de Accra au Ghana pour les 13e Jeux africains hein, par rapport justement à la préparation des Léopards des pays démocratiques du Congo. Malheureusement, on ne sait pas, mais bon, ce qui est sûr, on espère que ça ne cassera pas justement l'élan donc que Sébastien Desabre a imprimé au sein de cette sélection et que lors des deux prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde, hein, les Léopards vont revenir fort justement face aux éperviers du Togo ainsi que les Lions de la Terre du Sénégal, deux matchs déterminants, voilà, qui vont certainement dire encore un peu davantage hein, sur le parcours de Léopard dans cette compétition. On parlera également du tout puissant Mazembe, bien évidemment. Il s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue africaine de champions. Mazembe, qui va affronter le Petro Atlético de l'Angola. Les deux clubs se connaissent très bien. Voilà, donc Mazembe a eu à éliminer cette équipe en 2009, hein, lors de son parcours qu'il a amené justement au sacre lors de la Ligue des Champions en 2009. Voilà, et puis par après, ce qui est sûr, hein, cette formation du Petro Atlético d'Angola est très bien en place cette saison. Voilà, c'est l'une des rares équipes qui n'ont pas encaissé de but, en tout cas. saison dans cette compétition donc de la Ligue de Champions. Donc c'est à pauvre assurance que défensivement, c'est une équipe qui est quand même assez aguerrie. Donc Mazembe doit faire attention de ce côté. Lamine Ndiaye ainsi que l'ensemble de son staff technique sont en train déjà pour le moment de peaufiner justement un plan pour permettre justement à Mazembe, voilà, de faire déjà un bon match à domicile lors du match aller à Lubumbashi. Hein, voilà, prendre un écart assez considérable hein, pour permettre à Mazembe d'aller gérer justement à Luanda lors du match à retour. Voilà, donc Mazembe ne partira pas certainement avec les faveurs de pronostic parce que Mazembe a terminé deuxième de son classement. Voilà, après avoir perdu face à Mamelodi Sundowns, alors que Petro Atlético justement a terminé premier de son groupe. Mais ce serait un bon match à suivre, bien évidemment, entre deux bons clubs hein, qui effectuent voilà, une très belle saison au niveau de leur championnat respectif. Mais justement, ce sera, comme moi, j'ai eu la tendance et l'habitude de le dire, hein, voilà, ce sera l'équipe qui va préparer très bien mentalement cette double confrontation qui aura certainement la qualification. Voilà, Amine Birouk, hein, merci infiniment de m'avoir accordé justement ce petit temps pour intervenir. Hein. Je laisse la place également aux autres confrères justement qui vont intervenir après moi. Merci infiniment à vous. On se retrouvera certainement le samedi prochain pour d'autres actualités sportives en République démocratique du Congo. Bonne continuation à vous et au revoir.
Merci beaucoup. Direction la Guinée avec notre ami Chérif Aliou. Nous allons parler du Sili National, le Sili National de Guinée qui se lance également vers de nouveaux défis après un beau quart de finale lors de la dernière CAN avec de belles perspectives. Chérif Aliou sera des nôtres dans quelques instants. Voilà, le temps de caler les choses et on espère qu'il sera bien évidemment parmi nous. Voilà, la connexion, elle va arriver, elle est un peu lente. Je comprends aujourd'hui beaucoup de contraintes par rapport aux conditions sur le plan internet et téléphone en partie, notamment en Afrique de l'Ouest. Allez, le Cameroun. On va au Cameroun, je pense que c'est un sujet chaud. William Tchango, bonjour.
Bonjour Amine, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars.
Alors on va commencer par ce gros scandale qui éclabousse le football camerounais, 62 joueurs qui ont fraudé sur leur âge, y compris celui qui était considéré comme le plus jeune joueur de la CAN, Nathan Douala, qui n'a d'ailleurs pas tardé à rebondir puisqu'il va partir jouer en Europe. Quels sont les tenants et aboutissants de ce sujet et dans quelle mesure le football camerounais, la sélection camerounaise est menacée d'être disqualifiée de la prochaine CAN?
Je crois que c'est un sujet qui fait parler depuis le début de la semaine au Cameroun. C'est un sujet qui ne quitte pas les débats et dans les forums sportifs et dans les milieux sportifs. Je pense que cette actualité continuera de peser sur le Cameroun pendant des semaines encore. Et surtout, ce qui a davantage attiré la lumière sur cette affaire, c'est bien sûr la présence de Nathan Douala qui fait partie bien sûr de ces joueurs disqualifiés faute à suite à cette double identité. Donc on se demande bien comment la fédération qui a tous ces éléments sur le joueur depuis le début de la saison a pu ne rien dire après sa convocation pour la CAN, sachant que ça devrait représenter une menace de suspension pour la sélection camerounaise. Mais ce qui est quand même, je pense qu'ils ont quand même pris des précautions pendant la CAN en ne l'alignant jamais lors des quatre rencontres disputées par le Cameroun, parce que cette menace était déjà pesante. Vous vous souvenez que dans l'article qui a été publié sur Le Monde, le reporter fait savoir qu'ils avaient contacté le Cameroun avant la compétition pour faire part des éléments qui ne concordaient pas par rapport à l'âge de ce joueur. Il faut rappeler que lors de la CAN au Cameroun, le reporter du journal Le Monde avait eu la chance, on peut dire, d'avoir ce joueur dans un reportage qui s'était présenté avec un autre nom, et surpris de revoir le même joueur convoqué à la CAN sous une autre appellation. Je crois que ça l'a interpellé et il n'a pas hésité justement à saisir la FECAFOOT pour faire part de cette irrégularité là. Donc aujourd'hui, Je ne sais pas si le Cameroun continue d'être menacé, mais ce qui est clair, c'est que ça peut porter un coup sur la suite de la carrière de ce joueur. Et pour ce qui est de son départ pour l'Europe, c'est vrai que ça a été annoncé par son club dans la foulée de la visite du président de
La foulée de la visite du président de la Fédération camerounaise de football. Alors, en attendant de retrouver un peu la liaison avec notre ami William Tchango. Oui, William, on était en train de parler de la suite de ce dossier qui est très épineux. On ne sait pas quelles sont les chances du Cameroun de figurer parmi les pays en liste dans les éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAN 2025.
Ouais, donc je disais que c'est vrai que Nathan, voilà, on l'annonce dans un club en Europe, mais sachant ce qui se passe depuis ces derniers temps dans le foot camerounais, sachant que même les sources officielles sont capables de temps en temps de manipuler l'opinion à des fins qu'on ignore parfois. Donc, il n'est pas exclu que tout ce qui se raconte autour de son transfert soit tout simplement du pipeau, comme on en a souvent eu l'habitude. Donc, je pense que c'est un problème sérieux qu'on tente de masquer par un certain nombre d'agissements, à mon sens, qui ne concordent pas, qui n'ont pas de sens, mais le Cameroun continuera, ne serait-ce qu'en termes d'image, de souffrir de toute cette révélation qui aujourd'hui est pratiquement en train de paralyser la suite du championnat, parce que les playoffs qui étaient prévus démarrer ce vendredi 15 mars 2024 ont été repoussés d'une semaine. Et on ne sait pas si d'ici le 22, comme annoncé, tous les problèmes causés par cette affaire de double identité seront réglés pour permettre aux équipes d'aller chercher soit le titre de champion ou pour décider de celles qui iront évoluer l'année prochaine en division inférieure. Donc, ça reste un sujet brûlant et je pense qu'il est temps que les Cameroun prennent des initiatives pour tenter de rectifier le tir aussi rapidement.
Merci beaucoup William, on se retrouvera très bientôt, on parlera un peu d'ailleurs la semaine prochaine du possible successeur de Rigobert Song, on parle du retour de José Pesseiro, il y a également un autre portugais qui sera en lice, mais on le laissera pour la semaine prochaine. Il est 10h50, on va aller en Guinée-Conakry avec notre ami Chérif Aliou, il sera parmi nous dans quelques instants. Pour pouvoir parler de la sélection guinéenne du Sili National. Chérif, bonjour. Bonjour, Chérif. Alors, a priori, on nous signale qu'il est parmi nous. Chérif Aliou, bonjour.
Bonjour, Amine.
Alors, un petit retard par rapport à la connexion. La liste pour le tournoi en Arabie Saoudite, c'est les FIFA Series avec seulement un seul joueur pour la CAN. Quelles sont les explications?
Ben écoutez, vous l'avez dit, hein, Amine, une liste de 22 joueurs donc proactés par Kabadjoara, le sélectionneur du Sili de Guinée pour ces deux matchs amicaux qui auront lieu en ce mois de mars du côté de l'Arabie Saoudite contre Vanuatu et les Bahreïn. Il faut dire, hein, que sur cette liste-là, il y a quand même 13 joueurs locaux, oui, 13, dont 9 expatriés qui seront donc sur le pré avec le Sili de Guinée. Et puis voilà, surtout le retour de Morlaï Sylla. Eh oui, Morlaï Sylla qui a longtemps été réclamé par les Guinéens. Voilà, 2 ans maintenant que Morlaï était laissé sur le quai par Kabagawara. Ben cette fois-ci, il a donc été convoqué par le sélectionneur guinéen. Mais la particularité est que ce match-là ou ces matchs, disons, ne seront pas je ne sais pas Kabagawara, non. Absolument Camara et Segoussouma qui seront donc sur le banc pour ces deux matchs. Kabagawara fera bien et bien le déplacement, mais il sera présent en tant que superviseur aux côtés du DTN Kamfouri Lapé Bangoura qui vont donc à eux deux voir les tout nouveaux qui sont donc appelés pour ces deux matchs-là en vue bien sûr des deux matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrive très bientôt. Ce sera contre l'Algérie et l'équipe du Mozambique. Et donc voilà, Amine, une liste avec une connotation fortement localisée, on va dire comme ça.
Alors justement, je pense qu'il y a un petit souci de connexion encore une fois avec la Guinée. On va tout de même remercier Chérif Alou. Il reste quelques secondes, histoire d'aller peut-être au Burkina Faso, y compris via une connexion téléphonique, une simple connexion téléphonique, pour parler avec Jean-Modeste Ouédraogo. Et on va parler du nouveau sélectionneur du Burkina Faso. On connaît désormais le nom de celui qui prendra la place du Vervelu. Et c'est un homme du cru, Jean-Modeste. Bonjour. Oscar Barreau.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Mass. Alors, oui, il s'appelle Brahma Traoré. Et effectivement, voilà, c'est un pur produit du championnat local. Il a fait toutes ses armes au Burkina. Il a tout fait ici parce que, voilà, c'est quelqu'un qui a été footballeur du milieu de terrain, donc du côté du RCB, le Racing Club de Burkina Faso. Et puis après, il a été lui-même entraîneur du Racing Club. Et bien entendu, il a été plusieurs fois adjoint donc de l'équipe A. Il s'agit donc de lorsque Paul Pitt était donc en poste, il a été adjoint. Il a été adjoint également de Game of Thrones. Donc il a été adjoint de René Talman. Donc il a traîné sa bosse un peu partout et aussi il a occupé tous les postes pratiquement. Donc il a été donc sélectionneur des U17, sélectionneur des U20, des U23 et puis des talents locaux. C'est d'ailleurs lui qui permet au Burkina Faso de participer pour la première fois au CHAN en Afrique du Sud en 2014. Donc, ça dit que c'est quelqu'un, en tout cas, qui a de l'expérience, qui a du vécu, qui connaît le milieu, qui connaît l'environnement. Aussi, il a fait des diplômes en Allemagne, il a fait des stages en Allemagne également pour pouvoir donc parfaire ses diplômes. Donc, je pense que, voilà, on ne s'attendait pas forcément à lui, mais voilà, la fédération a estimé qu'il pouvait faire le travail, il pouvait faire l'affaire. Et donc, c'est lui qui va présider désormais au destiné des États-Unis de Burkina.
Et il y aura déjà deux tests pour lui, deux fois au Maroc contre la Libye et face au Niger, histoire d'étraîner ses galons et de faire une large revue d'effectifs.
Ah ben oui, voilà, une large revue d'effectifs pour ces deux matchs amicaux, Libye, Niger. Déjà, il a chamboulé un peu l'effectif, il a fait appel à de nouveaux joueurs comme... Régis Sando, c'est un jeune ailier qui évolue donc du côté de la première division portugaise. Il a fait également appel à un jeune milieu de terrain qui est du côté donc du Danemark. Il s'appelle Razak Yoda. Et puis et voilà, il a essayé d'apporter donc du sang neuf. Il veut lui aussi imprimer sa marque. Donc au niveau de cette équipe. Aussi, il y a un jeune ailier également qui évolue du côté de la Belgique. Il a également fait appel à ce garçon-là. Je pense que il veut un peu, voilà, apporter sa marque, il veut un peu apporter sa touche. Mais ici au Burkina, c'est vrai que on en parlait hein, sur Radio Mass. Les Burkinabés voulaient un entraîneur local. Certains pensaient que non, le terme local n'est pas, ne s'y est pas. Il faut peut-être penser à un entraîneur africain, pourquoi pas. Et donc finalement, bon, il a été choisi. Aujourd'hui, l'objectif pour lui, c'est de pouvoir mettre en place une équipe compétitive pour la qualification, la CAN au Maroc. Pour rien au monde, on ne va rater donc cette CAN-là au Maroc. Le Maroc est la deuxième patrie hein, de Burkinabé, puisque le Maroc accueille le Burkina depuis maintenant près de 3 ans. Et donc, il faut dire que aujourd'hui la tâche est un peu difficile pour lui, mais il va falloir aussi se qualifier pour la Coupe du Monde en 2026. Donc voilà un peu les objectifs assignés à Brahma Traoré et il devra travailler très dur pour pouvoir mettre en place une équipe compétitive.
Merci beaucoup, c'était court, précis, concis. Comme d'habitude, Jean-Modeste Ouédraogo, on se retrouve la semaine prochaine pour pouvoir faire le point concernant les premières sorties des étalons du Burkina Faso et pour pouvoir informer davantage nos auditeurs sur ce qui se passe au pays des hommes intègres. Merci à toute l'équipe, merci à tous nos amis qui ont contribué à ce rendez-vous. Je citerai Lise Onkpatine, Hamid Adela, Elisabeth Goli, Mohamed Saïd, Rissa Nyono, Michel Tobo, William Tchango, Chérif Alou, Jean-Modeste Ouédraogo. C'était un nouveau sprint que nous avons proposé pendant 60 minutes, un tour d'horizon assez complet de l'actualité continentale. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit sur Radio Mars. Allez, on se quitte en musique et à samedi prochain.
Is a bloom shoots up through the stony ground. There's no room, no space to.